Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons cette réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors, nous en sommes au chapitre 6 de cet ouvrage. Il est intitulé « Psychomachie ou le combat de l'âme ». Nous avons vu lors des émissions précédentes qu'un individu avait deux pôles. Premièrement, une persona, c'est-à-dire un masque social, le rôle qu'il joue dans la société. Et deuxièmement, une ombre, c'est-à-dire tout ce qui est refoulé par le fait d'avoir fait des choix, donc des éliminations. Donc l'homme est au carrefour entre cette persona, ce rôle social qu'il joue, et l'ombre qui le travaille intérieurement. Alors, dans la persona, il faut intégrer, persona, ça vient du mot latin, persona qui veut dire le masque social. Et ces notions, la persona et l'ombre, sont des notions de Carl Gustav Jung. Alors que pour Freud, on aurait pour l'équivalent de la persona serait le surmoi, et l'équivalent de l'ombre serait le ça, S en allemand. Donc le moi est pris entre le surmoi et le ça. Le surmoi, c'est l'idéal du moi. Mais je préfère ces deux notions, persona et ombre, parce qu'elles sont plus littéraires, plus poétiques, plus imagées. Alors, l'important, c'est que l'individu ne doit pas confondre sa façon de voir les choses avec celle de la persona. Ce n'est plus seulement un comportement d'emprunt qu'il endosse, mais c'est l'idéologie sociale tout entière qui va le modeler. Il s'agit d'une vision du monde partagée par le plus grand nombre, qui est transmise par l'éducation. Et l'éducation a pour but le conditionnement ou l'insertion sociale des individus. Alors la tâche n'est pas de récuser la persona, de se déprendre en quelque sorte de cette Weltanschauung, comme on dit en allemand, c'est-à-dire cette vision du monde qui est propre à celle qui est propre à la société. Mais la tâche, c'est au contraire de réévaluer cette persona, de la réexaminer, pour restaurer un équilibre qui risque d'être rompu. Et on sent bien en effet que la société s'oppose à toute l'ombre qu'il y a en nous, ou à tout ce que veut en nous notre ombre. Tout ce que l'ombre exige, la persona nous l'interdit. La société nous impose de choisir, et l'ombre nous tourmente en nous représentant les mutilations de notre être, qui sont provoqués par nos choix. Donc l'homme est un funambule qui marche dans la vie sociale constamment au-dessus des gouffres. Et à chaque instant, il manque de tomber. C'est miracle même que l'homme ne tombe pas davantage. Notez d'ailleurs que la marche elle-même n'est qu'une suite de petits déséquilibres compensés, comme le disent les anatomistes. Alors, la persona va valoriser en nous la conscience dans ses deux aspects, la vigilance et le contrôle. En tant que représentation du monde ou idéologie sociale, eh bien, on peut dire que cette persona nous impose de nous contrôler et de nous maîtriser, d'être conscients au sens psychologique de ce que nous faisons. Elle nous impose donc la vigilance. Et d'autre part, elle nous impose, par les interdits qu'elle nous donne, le refus de certaines pulsions. Elle nous impose l'inhibition. Et là, c'est la conscience morale qui est en question. Il faut bien en effet distinguer les deux sens du mot conscience en français. Conscience psychologique, en anglais on a consciousness, et conscience morale, en anglais on a conscience, l'anglais est plus précis que le français à cet égard. Alors les deux aspects de la notion, conscience psychologique, être conscient de ce que l'on fait, et conscience morale, écouter la voix de sa conscience, Eh bien, ces deux notions coexistent dans l'idéologie sociale, au moins celle de l'Occident, hein. Il suffit par exemple de voir comment l'Odyssée décrit les lotophages ou les mangeurs de lotus. Ils sont drogués, endormis, ils ne sont pas vigilants, ils sont moins que des hommes. Et Ulysse, au contraire, est l'archétype du personnage éveillé ou vigilant, et donc le héros occidental par excellence. Il existe en effet des sociétés qui admettent ou qui tolèrent la drogue, l'endormissement de l'âme, mais notre société ne l'admet pas. Alors le lotus, hein, les lotophages, attention, c'est pas ceux qui jouent au loto, hein, comme on pourrait dire en faisant une blague du type de l'almanach Vermeau. Non. Les lotophages, ils prennent le lotus qui donne l'oubli, hein, qui nous font entrer dans le l'été, etc. Hein, donc c'est les mangeurs de lotus. Et l'Odyssée, à cet égard, c'est la matrice de toute la vision du monde occidental. Par exemple, lorsque les compagnons d'Ulysse sont transformés en pourceaux par la magicienne Circé, il s'agit d'une chute irrémédiable, puisque la régression à l'animalité représente une déchéance. Notez que Baudelaire, par exemple, définit la femme dans un poème qui s'appelle Le Voyage de la façon suivante, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Donc, il s'agit de la femme à la fois par antonomase, c'est-à-dire par le fait de transformer un nom propre en nom commun, et par périphrase aussi, hein. Alors, le deuxième pôle, si vous voulez, de l'âme occidentale, c'est la Bible, hein. Eh bien, la Genèse nous dit exactement de la même façon que l'homme doit dominer sur les animaux. Ainsi, la tradition biblique et la tradition grecque se rencontrent pour former l'esprit de l'Occident, qui est fait de supériorité affirmée sur les animaux, et éventuellement de mépris à leur égard. D'autres cultures ne sont pas aussi sévères que la culture occidentale. Par exemple, la culture de l'Inde ignore cette coupure entre l'homme et l'animal. Dans le Ramayana, par exemple, le roi des singes vient aider le héros à récupérer sa fiancée lorsqu'elle lui est ravie. Il y a donc un pacte entre l'homme et l'animal, et même il n'y a pas de frontière nette entre eux, vous voyez, hein. Mais chez nous, il y a un mépris total vis-à-vis des animaux. Bon, ça commence à changer un petit peu, il faut l'espérer. Mais nous présupposons que les animaux n'ont pas de conscience. Alors peut-être pas au sens psychologique, ils sont conscients de ce qui leur arrive peut-être, mais au sens moral. Alors les dispositifs culturels complexes consistent à ruser avec les dangers que représente la perte de conscience, au besoin, en essayant de concilier la jouissance de leur séduction et la sauvegarde du moi. Et à cela sert précisément l'intelligence. Je vous renvoie là aussi à l'Odyssée et à l'intelligence d'Ulysse, qu'on appelle la métisse d'Ulysse, hein. Par exemple, soit l'exemple des sirènes, hein, dans l'Odyssée. Eh bien, Ulysse fait boucher les oreilles de ses compagnons, mais il se fait lui-même attacher au mât pour goûter le chant des sirènes. Ce dernier, c'est une métaphore de l'anéantissement, de l'engloutissement et de la mort, sans donc que cela soit dommageable pour lui. Donc Ulysse prend le bon côté de la situation, mais se préserve du mauvais côté, hein. Donc la plus haute culture ne consiste pas à exterminer ou à nier le ça, hein, les pulsions animalisantes éventuellement, mais à ruser ou à pactiser avec le ça, vous voyez. Donc, je crois que, quand même, hein, une attitude unilatérale de contrôle de soi, de vigilance et de répression des instincts peut être dangereuse. Donc, je pense qu'il y a une pathologie de l'hypertrophie de la conscience psychologique et morale à la fois. L'ombre, alors, va regrouper en chacun d'entre nous tout ce qui n'est pas contrôlé ou dominé, vous voyez. Alors, sur cette ambivalence de la conscience, je dirais que on peut se paralyser à trop veiller sur soi-même et à trop se contrôler. La connaissance et le contrôle constant de soi sont ambivalents. Alors tout le monde cite la phrase socratique « Connais-toi toi-même », cette phrase que Socrate avait vue au fronton du temple d'Apollon à Delphes et dont il avait fait sa maxime, son mantra personnel, Gnotis eoton. Eh bien, Gide disait « Connais-toi toi-même » est une maxime aussi pernicieuse que l'aide. La chenille qui voudrait bien se connaître ne deviendrait pas pour autant un papillon, vous voyez. Donc, ça veut dire que quiconque s'observe et demeure vigilant sur lui-même peut entraver son développement. Parce que celui-là peut se découvrir imparfait ou fragile, vulnérable, et ainsi s'installe la peur. Et puis, par un tragique phénomène de rétroaction ou de feedback, comme on dit, viendra la peur d'avoir peur, vous voyez. Et alors, ce qui va tomber, c'est l'élan vital. L'individu peut se paralyser pour trop se voir soi-même et prévoir les choses par hypertrophie de la conscience. Il va devenir pusillanime parce qu'il faut ignorer beaucoup de choses pour agir. Trop de conscience nuit. La conscience devient l'alibi de la timidité. Vous voyez, Scapin, dans les fourberies de Scapin de Molière, dit la chose suivante. « Je hais ces âmes pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'ose rien entreprendre. » Donc, la peur, Fassbinder disait « la peur dévore l'âme », et ça, c'est très important, surtout dans la période où nous sommes, dans la période historique et politique que nous traversons. La peur dévore l'âme, vous voyez, Donc, pensons aussi au personnage de Hamlet qui est un aboulique, c'est-à-dire quelqu'un qui perd toute volonté par hypertrophie, justement, de la conscience. Il dit, Hamlet, « Ainsi la conscience fait de nous des lâches ». Et il faut bien méditer cette formule avant de façon triomphale de célébrer cette conscience elle-même. Voilà, alors vous pourriez me demander pourquoi la conscience est-elle si problématique. Eh bien, elle nous montre qu'il n'y a pas de plaisir qui ne meure, ou qui ne se paie d'une douleur, comme le dit le proverbe et la chanson, « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie ». Il n'y a pas de rose sans épines, nous dit la conscience. Par exemple, si je fume une cigarette et si je réfléchis que, ce faisant, je risque d'avoir un cancer du poumon, tout mon plaisir à fumer va disparaître. À cause de la conscience, alors au sens psychologique, être conscient de ce que l'on fait, l'avenir nous occupe, le passé nous retient, et voilà pourquoi le présent nous échappe. Un chat, au contraire, est un animal magique. Si vous avez des chats, regardez-les, ils sont fascinants, les chats. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent entièrement dans le présent. Nous devrions pouvoir faire comme lui, mais non, nous sommes prisonniers de notre mental. Si ton mental vit, tu meurs. Si ton mental meurt, tu vis, disent les sages de l'Inde. Montaigne raconte, quelque part dans les essais, l'histoire du philosophe sceptique grec Pyrrhon, qui se trouvait sur un bateau pris dans une grande tempête. Le bateau était en grand danger de faire naufrage. Les matelots, les passagers étaient épouvantés à l'idée de leur mort prochaine. Mais il se trouvait sur le pont du bateau un pourceau, un petit cochon, qui ne manifestait aucun signe d'effroi et ne changeait rien à ses occupations. Alors Montaigne conclut de la façon suivante. À quoi nous sert cette pensée dont nous faisons tant de fêtes si elle nous rend de pires conditions que le pourceau de Pyrrhon? Vous voyez? Prenez l'exemple de la mort, hein. La mort n'arrive qu'une fois. Mais il est plus aisé de la supporter, sans y penser, que la pensée de la mort sans péril, c'est-à-dire quand il n'y a pas de danger. Hein. Comme le disait Sénèque, craindre la mort est plus cruel que de mourir. Vous voyez, mortem timere, crudelius est quam mori. Vous voyez. Donc, cette pensée nous obsède pendant toute notre vie. L'homme est le seul animal apparemment qui sache qu'il doit mourir. Hein. Finalement, cette dignité conférée à l'homme par la pensée et par la conscience, ici, je le répète, au sens psychologique du mot, qui sous-tend tout l'humanisme et toute la culture de l'Occident, c'est une idée qui n'est pas indiscutable. Hein. J'ai parlé de Hamlet, eh bien on pourrait dire que l'hamlétisme, c'est la maladie de l'homme occidental. Elle mène à l'aboulie, hein, c'est-à-dire à l'absence de volonté, hein, et aussi à la tiédeur. Hein. Songez que l'Apocalypse, par exemple, vomit les tièdes, écrit encore à l'ange de l'église de Laodicée, hein, malheur aux tièdes, mieux vaudrait pour toi que tu fusses froid ou chaud, mais comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche, vous voyez. Et Dostoïevski, dans Les Démons, avec le personnage de Stavrogine, a réactualisé cette notion d'aboulie, vous voyez, et de tiédeur. Camus commente le personnage de Stavrogine de la façon suivante. Stavrogine, s'il croit, ne croit pas qu'il croit, et s'il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas, vous voyez. Donc, il y a justement, et c'est l'âme slave qui a bien souligné cela, je pense à Oblomov de Gontcharov, par exemple, hein. Cette pathologie de l'absence de volonté, peut-être par hyperconscience. Quand on sait trop ce qui va se produire, on n'agit pas, vous voyez. Ou alors on remet les choses au lendemain. Alors là, je vous apprendrai peut-être un mot, c'est le mot de procrastination. Hein. Procrastination, pardon. J'ai confondu le grec et le latin. Non, procrastination. Alors, crasse, c'est demain en latin. Procrastination, hein, c'est le fait de toujours remettre à demain, crasse, hein, ce que l'on devrait faire aujourd'hui. Donc, on ne fait jamais rien. Procrastination, vous voyez. À quoi bon agir si on voit tout de suite ce qu'il va en résulter? Alors, mieux vaut parfois l'ignorance, l'inconscience. Descartes nous disait « Je pense donc je suis ». On pourrait dire au contraire en termes spinozistes « Je désire donc je suis ». Et par conséquent « Je pense donc je ne suis pas ». Ou encore, comme disait Paul Valéry, « Tantôt je pense, tantôt je suis ». Gide, je le répète, disait que « Qui pense à soi s'empêche hein, », s'empêche, se paralyse. La pensée est un défaut dans la plénitude de l'être, comme le ver dans le fruit. Hein. C'est ce que dit Paul Valéry aussi dans Le Cimetière marin. Hein. Le vrai rongeur, il s'adresse aux morts, hein. Le vrai rongeur, le ver irréfutable, n'est point pour vous qui dormez sous la table. La table, c'est la dalle du tombeau. Il vit de vie et ne me quitte pas. Vous voyez, donc, c'est le ver de la conscience. Mais déjà Baudelaire écrivait dans L'Avertisseur, hein, dans un poème qui s'appelle L'Avertisseur, « Tout homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune, installé comme sur un trône, qui s'il dit « je veux » répond « non ». Alors on comprend pourquoi les productions oniriques d'un individu ou les pulsions artistiques d'une société peuvent prendre très souvent le parti contraire, le parti du vitalisme contre l'intellectualisme, le parti de l'instinct contre la conscience. Il s'agit de réhabiliter ce que l'idéologie sociale, je répète, incarnée par le masque social ou la persona, méprise ou dissimule. Il s'agit de faire à l'ombre sa part, vous voyez. Et la contre-culture va valoriser tout ce que la culture ambiante méprise ou attaque. Et à l'intérieur de la culture occidentale, beaucoup de voix se sont élevées pour réhabiliter ce que l'idéologie sociale méprisait. J'ai parlé de la haine, du mépris des animaux. Hein. On le trouve encore dans la Genèse. Hein. Vous serez un objet d'effroi, Dieu dit à l'homme. Vous serez un objet d'effroi pour tout ce qui vit, hein, tout ce qui rampe sur la terre, tout ce qui vole dans le ciel. Tous ces êtres-là sont livrés entre vos mains. Ce passage m'a toujours terrifié. Hein. Pourquoi justement mépriser ainsi les animaux, ou plutôt donner à l'homme la domination absolue? Vous serez un objet d'effroi. Récemment, je l'avais dit dans un billet à ce micro, hein, un billet qui s'appelait Prétention, on a vu un surfeur à La Réunion réclamer l'élimination de tous les requins, justement, qui empêchaient de faire du surf autour de l'île. J'ai trouvé que c'était quelque chose de terrifiant. Hein. Il y a une prétention énorme à se vouloir ainsi le roi de la création. Sous prétexte qu'un bodybuilder Burder avait été attaqué par un requin, alors qu'on avait déjà signalé la présence du requin sur la plage, hein, eh bien, ce champion de surf a voulu préconiser l'élimination de tous les requins dans un périmètre autour de l'île. Donc, une extermination, même si elle n'est que spatiale, ponctuelle, à mon avis, c'est quelque chose d'assez effrayant. Et Montaigne, mon cher Montaigne, a violemment critiqué la prétention de l'homme à vouloir dominer les animaux, à vouloir régner sur eux. Il a critiqué l'anthropocentrisme issu de la Genèse. C'est une vision que déjà avant Montaigne, saint François d'Assise avait récusée, hein, puisqu'il parlait des animaux comme ses frères. Hein. Bon, mon frère le loup, ma sœur l'araignée, etc. Voilà le franciscanisme. Montaigne reprend cela. Non seulement nos animaux, les animaux sont nos frères, comme disent les franciscains, mais à bien des égards, ils nous sont supérieurs. Alors vous allez me dire pourquoi, hein. Pourquoi chez nous le mot « bête » signifie à la fois « animal » et « stupide » ? Je trouve que c'est assez injurieux pour les animaux. Hein. Par exemple, je prends un exemple. Vous n'avez jamais vu une vache donner des coups de corne à son veau, à son petit veau, venant de s'étaler dans une flaque d'eau pour le punir. Hein. Bon, vous l'avez jamais vu. Mais combien de fois avez-vous vu une mère dont l'enfant, de la même façon, vient de tomber dans une flaque, non seulement ne pas s'enquérir s'il s'est fait mal, mais le corriger pour s'être sali et avoir sali ses habits. Vous voyez ? Donc, je dirais que là, l'être humain se comporte d'une façon inférieure aux animaux. Et pour les orientaux, d'ailleurs, notre société, qui pratique par exemple la vivisection, est éminemment barbare. Hein. En Inde, l'ahimsa ou la non-violence ne souffre aucune exception pour aucun animal. On dit que Gandhi a été terrifié quand il a été à Londres et qu'il a vu des carcasses d'animaux pendues aux crocs de bouchers, vous voyez, hein. Donc, il faut définir comme contre-culture la pensée et l'art qui restaurent le méprisé, le refoulé, selon la direction dominante où s'est engagée la culture. La contre-culture est marginale, certes, mais elle est très vivante. La science-fiction, par exemple, montre des singes dominant les hommes. Je pense au roman de Pierre Boulle, La planète des singes, et aux films qui en ont été tirés. Hein. Et le mythe de Tarzan lui-même, élevé par les singes, prend acte des carences de l'éducation strictement humaine, ainsi que de la barbarie potentielle de l'humanisme occidental. Il y avait naguère un film qui était sorti qui s'appelait Greystoke, de Hudson, plutôt, pardon, et ce film nous montrait justement la relativité des jugements en matière d'éducation. L'inversion des rôles, c'est un procédé efficace pour la dénonciation, et il est de la plus haute importance qu'une culture admette en son sein sa propre contestation. D'ailleurs, les contes nous disent qu'il y a eu un état initial où les hommes et les animaux vivaient en symbiose, c'est-à-dire en vie commune, en indistinction. Hein. Regardez le début des contes, c'était au temps où les bêtes parlaient, vous voyez. Alors, le poète va recréer cela en mêlant les règnes, par exemple, par la métaphore. Voyez la chevelure de Baudelaire, hein. Longtemps toujours ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à l'entrée les vins du souvenir, le vin du souvenir. Donc, vous voyez, il s'agit, la crinière, c'est un animal. La chevelure est animalisée, vous voyez. Les métaphores permettent cela, hein. Et il y a quasi une zoophilie aussi, un amour de l'animal, hein. Donc, mais aussi dans nos, dans la façon courante de parler, regardez les hypocoristiques, c'est-à-dire les diminutifs d'affection, hein. Mon petit loup, mon gros canard, etc. Si vous lisez, par exemple, une correspondance amoureuse, vous verrez que c'est souvent d'une ménagerie qu'il s'agit, hein. Voilà, ma biche, etc. Donc, aussi bien le poète dans ses métaphores animalisantes que, justement, le langage courant qui valorise, effectivement, l'animalité, nous montre une direction à suivre. Alors voilà, eh bien, j'espère que la semaine prochaine, nous continuerons à suivre cette même direction, voir cette subtile dialectique entre la culture et la contre-culture. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.